Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller, chapitre 17. À l'approche des fêtes de fin d'année, le corbeau s'est réveillé. Il ne s'était pas manifesté depuis les 4 premières lettres. Les gendarmes ont enquêté discrètement. L'individu est habile, car aucune piste n'est apparue aux enquêteurs. Gilles sait que la patience doit être de mise. Il fera une faute, c'est sûr. Joseph Palu lui soumet la feuille de journal. Gilles ne peut réprimer un mouvement de dégoût. Voleur, violeur, tu dois payer. Salaud, facho, tu dois expier la sodomie. Empalé sur un pieu, telle sera ta punition. Il ne dit rien sur les 4 destinataires précédents. L'idée est toujours la même. Ce malade a des fixations. Il se demande si ce sera le dernier ou le premier de la série. Son interrogation est de courte durée, car aussitôt Joseph Palu parti, le docteur Lecœur se présente à lui. Les deux hommes s'apprécient, le contact est chaleureux, et rapidement le médecin sort une enveloppe de sa serviette. Gilles n'a pas besoin de dessin. Voici le 6e destinataire. Quand ce cirque va-t-il s'arrêter, pense-t-il. Le texte collé sur le papier journal identique est différent des autres. Il le relit plusieurs fois. Tu l'as étranglé avec la corde usée de ta guitare. L'arme du crime est dans la pochette décollée. Honte à toi, l'étrangleur. Comme pour les autres, il lui demande de ne rien dire. Ils se sont compris à demi-mot et demande au docteur s'il a 5 minutes de plus à lui consacrer. Ce n'est pas un problème, lui rétorque le praticien. Gilles essaie de balayer le champ des suspects possibles. Son interlocuteur n'est pas du même avis. Il ne croit pas que le corbeau soit malade. Il pense plutôt à quelqu'un qui trouve un intérêt à semer la discorde dans le village. Gilles est perplexe. Les deux hommes prennent congé en se disant à bientôt. C'est en rasant les murs et en se faisant minuscule qu'Ernestine Ruot trouve le courage d'aller conter ses malheurs aux gendarmes. Sur les conseils du curé Brécourt, qu'elle a sollicité en confession, elle consent à se présenter devant le lieutenant. La pauvre femme est livide. Elle n'a jamais lu de sa vie de telles obscénités. Elle donne l'enveloppe et la lettre du bout des doigts. Le diable est au bout de sa main. Elle se signe, après avoir passé les documents. Il lui propose de s'asseoir. Elle se pose délicatement sur la chaise, une demi-fesse seulement, comme quelqu'un qui n'a pas envie de s'éterniser. Grenouille, tu aimes les couilles, le curé te masturbe, tu vas mourir un crucifix entre les cuisses. Le lieutenant ne fait aucun commentaire. La pauvre femme est suffisamment secouée. Il la rassure du mieux qu'il peut, lui conseille de faire ce qu'elle fait normalement et de ne rien changer à ses habitudes. Ernestine s'en va, pas plus rassurée, mais contente d'avoir pu s'exprimer avec le chef de la cellule spécialisée. Il s'est pris la tête entre deux mains et réfléchi. Il a remarqué que sur les 7 lettres, 2 sont différentes, mais n'insiste pas. Il veut garder ce sentiment pour lui et réfléchir davantage. Le téléphone l'arrache à ses pensées. Il décroche. Johann Mauduit, le maire, décide de le voir à son domicile, si possible, car il est actuellement chez lui. Gilles est disponible et il se rend immédiatement là-bas. Arlette Mauduit le reçoit, souriante et attentionnée, égale à elle-même. Elle l'introduit dans le bureau où l'attend Johann. Celui-ci demande à son épouse de rester avec eux. Cette dernière propose de servir une boisson. Gilles choisit un café, le maire aussi. 2 minutes plus tard, elle arrive avec un plateau. Johann entre tout de suite dans le vif du sujet, déclarant que Lianceville a un corbeau. Gilles ne bronche pas. Il lui laisse le soin de développer son propos. « Oui, lieutenant, nous sommes confrontés à de la haine ordinaire. La boue va tous nous souiller. Regardez ce que nous avons reçu. Prends le feuillet que lui tend le maire. Tu aimes le cul de Mylène, sa frise sous sa culotte. Le village doit savoir, à mort le fornicateur. Heureusement que nous sommes un couple sans souci, et que notre amour ne se laisse pas embarquer sur ce terrain, reprend Madame Mauduit. Il faut trouver ce tordu, monsieur Gilles. Gilles les informe que cette lettre est la 8e qui est communiquée aux gendarmes. Toutes sont basées sur la calomnie, l'adultère et la délation. L'épistolaire prend un malin plaisir à prétendre tout et n'importe quoi. Sachez que nous n'accordons aucun crédit à ce ramassis d'insultes. Ils conversent pendant de longues minutes. L'élu a saisi les difficultés de l'enquête. Il voit bien que le lieutenant évolue dans une brume épaisse. Bien entendu, Benjamin est au cœur de la discussion. Johann Mauduit déclare que tout ce qui peut mettre hors d'état de nuire le corbeau sera entrepris. Pour l'instant, l'individu n'a pas trop laissé d'indices. Gilles a toujours sa petite idée, mais il préfère attendre un peu avant de tenter de confondre un suspect. Il ne veut pas faire fausse route. L'épisode Bolton-Flaherty l'a marqué. Aurélie et Guillaume ont accepté, à la demande du père Brécourt, d'assister à la messe dominicale. C'est une épreuve terrible pour le couple. Tous les villageois remplissent les travées de l'église. Ernestine a astiqué les bancs qui sentent l'encaustique. Chacun témoigne de sa solidarité avec eux. Au-delà des croyances, la population tient à montrer sa compassion aux époux en détresse. Aurélie a beaucoup changé. Elle nage dans des vêtements trop amples. L'obsession qui la ronge lui a coupé l'appétit. La belle jeune femme insouciante et épanouie a cédé la place à un être diaphane. Elle n'utilise plus de maquillage, plus rien ne semble l'intéresser. Benjamin est sa seule lumière, une faible lueur d'espoir qui vacille de plus en plus chaque jour. Guillaume, toujours le même physiquement, se replie davantage. Il communique peu. Sa nature taciturne fait le reste. À l'image de son épouse, il ne s'intéresse pas à grand-chose, hormis les travaux de la ferme. Ils ne savent plus sourire. Le garçonnet a emmené avec lui leur joie de vivre. Le curé ponctue son homélie de longs silences. Le recueillement est intense. Des larmes coulent sur les joues des villageoises. La communion dans la peine est sincère. L'approche de Noël intensifie ce besoin de partage. Ce moment de l'année, consacré à la famille, se charge d'une émotion particulière. Benjamin est dans tous les esprits. Justin Brécourt lance un message à peine voilé en direction du corbeau. Il demande à ceux qui ont le cœur perturbé, indifférents au malheur d'autrui, de réfléchir. Les noirs desseins ne sont pas une fin en soi. Après les actes, vient l'heure de la conscience. Ils doivent pouvoir se regarder dans le miroir. Il n'est pas trop tard pour changer les reflets d'une âme sombre. Le mal que vous semez tout autour de vous vous encerclera tôt ou tard. Et il n'y aura pas d'échappatoire. La plupart des villageois ne saisissent pas le sens premier du prêche du curé. Ils croient que les propos s'adressent aux ravisseurs du petit Benjamin. Le docteur Lecœur et Johann Mauduit comprennent la destination du discours. Dieu fasse que le corbeau perçoive sa méchanceté et qu'il prenne en compte les paroles de l'ecclésiastique. Les époux les chiens ne communient pas. Pour eux, le divin est parti avec leur fils. Ils ne sont là que par amitié profonde envers le père Brécourt. Le corbeau donne à nouveau de ses nouvelles. Le défilé des récipiendaires se poursuit dans le bureau du lieutenant. Après une interruption de 2 mois, le sinistre personnage redouble de vigueur. Il crache son venin à forte dose. Arlette Mauduit se présente à son tour, semblable à leur dernière entrevue. Elle vit ce cauchemar avec beaucoup de sang-froid. « Ce tordu ne s'arrêtera donc jamais, monsieur Gilles, lui dit-elle. » Il examine le nouveau document qu'elle lui apporte. L'individu opère toujours avec le même matériel. La feuille de journal jaunie est soigneusement découpée. Les angles sont droits, ce qui laisse supposer qu'il aime les choses ordonnées. Jusqu'à présent, un seul exemplaire du quotidien du bocage a été utilisé. Le numéro choisi est daté du 27 avril 1972. Il l'interroge sur cette journée d'il y a 33 ans. Elle ne voit aucun rapport avec elle. car elle avait 8 ans à la date de parution. Le texte raconte toujours des insanités. Ton amant, Eric Pahulu, périra. Tu brûleras toi aussi en enfer, un cierge dans ton cul. Il ne doute pas de la fidélité de son interlocutrice. Toutefois, il lui demande si elle connaît bien Eric Pahulu. Elle le regarde droit dans les yeux et lui déclare qu'elle le connaît de la même manière que tous les autres habitants de Lyonsville, ni plus ni moins. Lors de la prise de congé, elle serre fortement sa main et insiste sur l'impérieuse nécessité de mettre fin à de tels agissements. Toute cette boue va nous engloutir si nous ne prenons pas garde. À bientôt. Et elle s'engouffre dans sa voiture. Gilles réfléchit dans son bureau et fait le point sur l'activité du corbeau. Il y a une constante dans les propos de ce malade, pense-t-il. Sur les 9 lettres que j'ai lues, 7 sont à connotation sexuelle. Éléonore Bolton et le docteur Lecoeur bénéficient d'un traitement différencié. Ils décortiquent les mots des 2 messages. Dans les 2 cas, la mort de Benjamin est abordée. Il sent que quelque chose cloche, mais n'arrive pas à trouver la clé. Il a une toute petite idée qu'il n'ose formuler et préfère attendre encore. Julien Béchel arrive tout penaud à la brigade. Avec son enveloppe dans la main gauche, il serre la main du lieutenant qui le sent mal à l'aise. Julien est le beau gosse du village, toujours célibataire à 32 ans, collectionnant les aventures. Femme mariée ou jeune fille, il n'a qu'une seule devise, MCM, mignonne, consentante et majeure. Il explique que sa vie privée se déroule toujours dans la discrétion. Il est ennuyé par ce torchon, car il ne veut compromettre personne. Gilles appréhende la situation du jeune homme. Il a à son tableau de chasse quelques paroissiennes bien établies, et la révélation de leurs cuisses légères sèmerait la révolution dans le pays. Le billet jaune ne donne pas de nom, il émet des menaces. Tu dois périr par où tu pêches. Ta queue en pendentif, elles pleureront le plaisir perdu. Il lui demande si la date du 27 avril 72 lui rappelle un événement quelconque. Il répond qu'il n'était pas encore né. Gilles le remercie et l'assure qu'absolument rien ne sortira de la brigade. Il a sa parole d'homme, Julien repart rassuré. Le vieux Louis le Boiteux tourne en rond autour de la gendarmerie. Il tient sa casquette entre ses mains et la tord dans tous les sens. Il se comporte de la sorte lorsqu'il est contrarié ou excité. Il passe 5 fois devant l'entrée, hésite et repart. Ce manège n'a pas échappé au gendarme Angot qui fume une cigarette à la fenêtre d'un bureau. Ce dernier sort et l'aborde. Il lui demande s'il désire voir quelqu'un. En tordant son couvre-chef, l'autre acquiesce d'un signe de tête. Angot le convainc de voir le chef. Il a peur de rencontrer à nouveau le lieutenant. Durant quelques instants, il est tétanisé. Gilles lui propose un café. L'homme finit par se déculpabiliser. Il vide rapidement le gobelet et enfin prend la parole en tremblotant. Il fouille dans la poche intérieure de sa veste en velours marron, en sort une enveloppe pliée en 4. Il la lui donne toute froissée. Gilles connaît trop bien le scénario. Il déplie rapidement le contenant et extrait le contenu. La feuille jaunie est tout aussi perverse que les précédentes. « Sale vieux Vissla, je te crèverai les yeux. Tu materas l'obscurité. » Le corbeau en disait trop et pas assez. Faisait-il allusion aux séances de bronzage d'Aurélie? Gilles aurait aimé que l'individu rajoute quelques mots. Pour le courrier de Louis le Boiteux, il avait choisi d'être bref. Le vieux certifie qu'il ne fait plus le voyeur et que la lettre le glace de peur. Gilles le rassure du mieux qu'il peut. L'ancien ouvrier agricole se confond en 1000 remerciements, termine par autant d'excuses et repart un brin réconforté. Le gendarme trouve abjecte cette façon d'opérer. S'en prendre à un vieil homme inoffensif est la dernière des bassesses. L'arrivée d'Éric Pahulu ne passe pas inaperçue. La journée est bien avancée. La nuit s'est posée sur Léanceville. Il pénètre dans le bureau en tonitruant que de telles choses sont inadmissibles. Il est venu pour qu'il soit mis bon ordre à tout ce bordel. Gilles ne cherche pas à le calmer. Il le laisse vider sa hargne. Le cinéma dure 5 bonnes minutes. Lorsque l'homme s'arrête, il lui dit simplement 3 mots. « Je vous écoute. » Déstabilisé par le comportement de son interlocuteur, il raconte avec plus de calme ses avatars. Il a reçu sa lettre. La douzaine de torchons vient d'être atteinte. La missive l'assimile à son père. « Fornicateur, comme ton père, tu baises après lui. Tu vas mourir, tué par les femmes. » La crainte ne l'habite point. L'exaspération guide sa démarche. À l'instar des 11 autres destinataires, il veut que soit trouvé l'odieux personnage, celui qui se cache honteusement derrière les lettres anonymes. Malgré le souci de discrétion des gendarmes, la nouvelle s'est répandue dans le village. Des noms circulent sous le manteau. Chacun suspecte quelqu'un. Malheureusement, aucune preuve matérielle ne vient étayer les ragots.